Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des radios Assivières. Moi, c'est Nini Villegas et aujourd'hui, je me réjouis de t'accueillir, Antoine Lacouturière. Salut Antoine.
Salut Nini et puis bonjour à toutes et bonjour à tous.
Quelle belle voix, hein, ça porte.
Merci, c'est gentil.
On va parler de ton podcast, on va parler de toi, on va parler des toucher du doigt la santé, les podcasts qui parlent des rencontres entre santé et bien-être, et pas que, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, c'est assez bien résumé, et pas que.
Et pas que. Antoine, tu es praticien, tu es ostéopathe, tu étais sportif de haut niveau, podcasteur, mais tu aimes aussi aller à la rencontre des personnes avec des témoignages insolites et riches en expériences. On va commencer par te présenter à ta guise.
Ok. Eh bien, tu as dit plusieurs choses déjà. La base de mon quotidien, en plus d'être papa et compagnon, c'est d'être soignant. Donc, une partie de la journée, une fois que ça s'est fait, la famille, après, il reste le soin. Et donc, je suis ostéopathe, sophrologue, et depuis pas longtemps, podcasteur. Sportif de haut niveau, c'était il y a un moment déjà maintenant, ça fait 15 ans. Waouh, ouais, 15 ans. Et donc podcasteur, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui avec toi. Partir à la rencontre d'êtres inspirants, des soignants, des sportifs, des artistes. L'idée, c'est parler du soin, de la santé, du bien-être, avec ces différents angles de vue pour s'enrichir, parce que je crois vraiment que faire du lien, eh ben, c'est bien. Pour résumer, plutôt que d'opposer les disciplines, j'ai à cœur de les relier. Voilà, en quelques mots.
Alors, ton podcast est tout un voyage. Chaque épisode est tout un voyage initiatique dans l'univers aussi de la personne que tu rencontres. Il y a toujours cette recherche passionnante justement du fonctionnement du corps humain et de toutes les façons, les manières de prendre soin de lui. Et toute la transdisciplinarité, multidisciplinarité, si on peut le dire, chez toi, d'où ça vient cet intérêt de croiser tous ces univers.
C'est une bonne question. En fait, c'est un mélange entre de l'expérience personnelle et une forme de, allez, je vais dire, d'élan de vie. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes qui écoutent, j'ai été patient, moi aussi. Il y a des moments de vie plus ou moins faciles pour tout le monde, hein, pour tout un chacun, et donc j'ai été confronté au système de soins traditionnel, et je le remercie, ce système de soins, parce qu'on a besoin des professionnels de santé, on a besoin des gens qui soignent, qui guérissent, qui opèrent, qui accompagnent. Simplement, c'est pas forcément suffisant pour aller vers la santé. Quand je dis ça, je précise, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle dit que c'est un état de bien-être complet. Et tu vois, je trouve ça à la fois génial et en même temps subtil, parce que quand on évoque le mot bien-être aujourd'hui, ça sonne presque péjorativement, en disant c'est bien-être, c'est presque ésotérique, non? Alors qu'en fait, c'est au cœur de la définition de la santé de l'OMS. Et pour répondre à ta question, d'où est-ce que ça vient, ce côté transdisciplinaire? C'est un mélange entre mon histoire et aussi l'histoire de mes patients. Ça fait maintenant 10 ans qu'au cabinet, tous les jours, j'ai une dizaine de patients par jour qui me racontent leur histoire. Alors maintenant moins, parce que je fais beaucoup de bébés. Les bébés me racontent moins, enfin moins avec les mots en tout cas, plus avec leur tissu. Mais et je me rends compte que c'est une grande symphonie, si tu veux. Il y a un chef d'orchestre, le patient au milieu de tout ça, il va être en lien avec différents soignants et chaque soignant a une manière de soigner. Et on a besoin les uns des autres. Et donc, mon idée, dans ma construction, dans mon parcours d'ostéo, je me suis vraiment inspiré de personnes qui avaient des manières de soigner avec différentes couleurs, différentes colorations, différentes perceptions. Et je me suis rendu compte qu'il me faisait du bien, à la fois en tant que patient, mais aussi en tant que soignant. Et donc j'ai essayé, enfin essayer, c'est pas un bon mot, je m'efforce, je m'applique de mettre en lumière les forces de chacun. Et en fait, quand on fonctionne ensemble avec nos compétences et la conscience de nos limites, hein, et ben je trouve que ça fait quelque chose qui est vraiment fort, efficace, optimal pour les patients. Voilà. Et je me suis dit que c'était important de le transmettre parce que et ben c'est ce que vous nous offrez ici, la radio, c'est ce que vous nous offrez les médias, c'est ce que vous nous offrez les réseaux sociaux et la parole de chacun. Et je me suis dit, ok, allez, on y va, podcast, c'est parti. Voilà.
J'aime bien ton point de vue et ça m'a permis aussi de faire écho à l'épisode où tu es avec Philippe Andréani, qui justement, il parle, enfin, ostéopathe, anatomiste, c'est un bijou, hein, j'aimerais le rencontrer un jour. Tu lui passes les bonjours de ma part.
Avec joie, il sera ravi de ça.
Et il parle de, ce serait idéal que tous les professionnels de la santé puissent collaborer entre eux. Et justement, la complémentarité des différentes disciplines. Est-ce que tu essayes aussi de transmettre par les biais de ces personnes que tu rencontres tout au long de chaque chapitre? On va parler de sport, ça t'est dit?
Ça me dit bien.
Alors, le épisode numéro 1, c'est avec Aurélien Guibert de CSP.
Oui.
Donc, c'est ostéopathe.
Oui.
C'était fort intéressant et sympathique aussi, cette rencontre.
Et ben, ça aussi, ça lui fera plaisir, je lui dirai. En fait, Aurélien, c'est le premier, et je le salue au passage, je les salue tous, mes invités, c'est devenu des amis, c'est un peu fort, mais ça crée un lien particulier, comme nous, là, aujourd'hui, dans les micros, il y a les micros, et puis il y a le lien qui se tisse. Donc Aurélien, et ben, c'est le premier épisode. À l'époque, j'avais pas la compétence technique que j'ai aujourd'hui pour gérer une interview, et donc je le remercie de sa gentillesse de s'être prêté au jeu. Et il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Aurélien, aujourd'hui, il est soignant de la plus grande équipe de Sportco du secteur. Un petit coucou au Limoges CSP et à tous les fans, parce que c'est aussi un gros public, et ici on a quand même cette marque de fabrique là, alors il faut le dire. Et Aurélien, en fait, ça fait 15 ans, 16 même, ça fait 16 saisons qu'il accompagne l'équipe du Limoges CSP. Et c'est une bonne transition avec ce que tu viens de proposer, le côté pluridisciplinaire. En fait, il y a beaucoup de professionnels de santé qui fonctionnent comme ça. Il y a de plus en plus de professionnels de santé et des professionnels de soins et du bien-être. Pour faire un exemple très court, à l'hôpital, dans certaines de pathologies, pour certains services, il y a à la fois des chirurgiens, à la fois des infirmiers, à la fois des aides-soignants dont on a besoin. C'est vraiment hyper important de valoriser les personnes qui sont au contact des patients et pas forcément tout en haut de la pyramide. Et puis, il y a aussi des sophrologues, il y a aussi des esthéticiennes, des socio-esthéticiennes. Et tout ça, en fait, c'est en train d'exister. Et pour faire le parallèle avec Aurélien, qui n'est pas dans le milieu hospitalier, mais dans le milieu sportif, même exemple, médecin du sport, kiné, podo, et lui, il a ce rôle d'ostéo. Et dans l'équipe du Limoges CSP, c'est un rôle important. Il va parler avec les joueurs, avec les tissus des joueurs. Et donc, on a lancé le podcast tous les deux. Je suis ravi d'avoir fait ce premier épisode. C'est à la fois du local et puis c'est aussi du sport de très très haut niveau, donc c'était intéressant pour moi. J'espère que les auditeurs iront l'écouter.
Alors, c'est l'épisode numéro 1, soins ostéopathiques dans le sport professionnel et lien avec notre quotidien. C'était chargé d'aventures, d'histoires et aussi de l'humain. Il y avait aussi ces côtés humains où il expliquait, mais chaque personne est tout un univers à comprendre aussi.
Ouais, c'est chouette que tu aies réussi à extraire ça, parce que derrière le côté technique, on parle d'ostéo. Qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? Eh bien, c'est avant tout un lien avec un être humain. Et c'est vraiment ça, c'est une enquête, c'est une rencontre. C'est un lien qui n'est jamais le même. On a les mains, on a nos sens. Et ça change à chaque fois. Donc je crois qu'il a bien mis, enfin j'espère avoir réussi à mettre ça en valeur chez lui, ce côté adaptatif avec une base, hein, de l'anatomie, de la physio, des compétences relationnelles, de la bienveillance, une grande expertise aussi, et puis cette forme d'artiste qui change à chaque fois. C'est pas exactement la même chose.
Antoine, je te propose un exercice que tu aimes bien. Et il me semble, et est-ce que ça t'a dit de décrire la pièce où tu es?
Je vois que tu as écouté, ça me fait sourire, c'est un exercice que j'aime beaucoup effectivement. Si je ferme les yeux ou si j'ouvre les yeux, ça sera différent, mais en rentrant, je me suis dit que vous aviez réussi à créer un vrai petit cocon. Alors je joue le jeu avec joie pour les auditeurs, les auditrices. Dans la pièce, il y a un mélange de couleurs avec un rouge vif qui amène plein d'énergie. À l'extérieur de la pièce, il y a la lumière du jour et cette ambiance du cœur du Limousin. Et puis, vous avez utilisé du bois, ce qui fait que c'est un mélange entre le blanc, le bois, je dirais que c'est du Douglas vu la couleur, du liège pour absorber les plaques phoniques. On est vraiment dans un petit cocon de studio avec quelques affiches pour des événements qui sont passés ou qui arrivent. Et puis au-delà de la pièce, il y a ton grand sourire à toi et la voix qui amène plein de soleil de bien plus loin que la France. Donc voilà, sur un premier extrait, il y a l'odeur du café que tu as préparé. Et puis c'est bien déjà.
Très bien, merci Antoine. Cela me permet de parler des sensations, justement. Tout au long des épisodes, il y a un regard que tu portes justement à la kinesthésie, au regard, aux sensations, à aussi la particularité et la subjectivité aussi de chaque personne par rapport au ressenti, même des espaces. Donc, comment tu lis tout ça avec ta vie professionnelle ?
Eh bien, c'est une sacrée question. C'est une question sacrée au sens... en fait, il y a une base qui est neurophysiologique. C'est-à-dire qu'une sensation, c'est quelque chose qui va être interprété par le système nerveux. Mais avant d'être interprété, c'est une interface entre l'extérieur et l'intérieur du système. C'est nos capteurs qui le permettent de le faire, et les capteurs principaux, c'est les sens, les cinq sens. Hein. Alors, on peut parler de sixième sens, on peut parler d'intuition, on peut parler de plein d'autres choses, mais d'un point de vue anatomique, il y a une trace, il y a une base, il y a une existence concrète, et moi, j'aime le fait de pouvoir toucher. Au départ, j'ai fait du sport. Et donc, pour moi, c'était important de le sentir, tu vois. Je suis plutôt kinesthésique. Je le sens bien, je le perçois, je le devine avec les mains. Donc, ça me permettait de m'approprier les sensations sur la partie concrète. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise en permanence, plus ou moins consciemment, les sensations. Quand on parle de l'environnement extérieur, c'est à travers nos filtres. Ce qui est fort, c'est qu'on a parlé plus récemment avec les neurosciences de neuroplasticité. Et donc en fait, c'est pas figé dans le temps. En fonction de ce que je fais rentrer dans mon système, je vais créer des chemins, des autoroutes neuronales qui sont plus ou moins faciles à prendre. Et donc l'environnement va influencer comment est-ce que je perçois le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est les deux en même temps. Et ça, en fait, c'est au cœur de mon quotidien. Aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, je me rends vraiment compte de l'importance de comment est-ce que les êtres humains qui viennent au cabinet détectent, captent les informations. La vue et l'écoute, c'est quelque chose qui est prépondérant. Depuis l'école, on nous demande d'être sage, de pas bouger, d'observer, d'écouter, de se taire. Et j'exagère un petit peu, hein, mes deux parents étaient enseignants, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants et je les salue tous. Et on a besoin d'enseignants, de transmettants, de gens passionnés. Mais ça m'interpelle, cette notion de sensorialité. Donc plus ça va, plus je rencontre des soignants, des artistes. En fait, là, en te regardant, je me dis, mais c'est le point commun avec tous. Tu vois, l'épisode avec les trois cafés gourmands, sur scène, Jérémy et Sébastien, ils nous parlent de leur vécu. Ben, c'est les sens. En fait, ils parlent de la sensorialité. À un moment, Jérémy, je crois qu'il dit, il y a l'odeur de la scène. Et toi, t'as ton casque, t'écoutes et tu te dis, mais non, c'est dans les oreilles. Non, lui dit, il y a une odeur. Et en fait, je trouve ça fantastique. Dans l'épisode avec le Clos d'Essence, donc c'est magnifique pour moi, c'est un restaurant 3 étoiles, aussi bien le chef Franck que Thomas le sommelier, ils disent ben, l'univers dans lequel on arrive, tu pourrais dire c'est un resto 3 étoiles, on est dans la bouche, mais carrément pas. Quand tu poses les mains sur la table, il y a la texture de la nappe, il y a la poterie qui a été travaillée, il y a les verres et l'épaisseur du verre. Donc en fait, ben ouais, c'est vraiment en train de devenir un... Ça m'anime d'aller dans cette sensorialité-là. Et c'est aussi lié avec les artistes, la matière, la sculpture. La... Donc ouais, je trouve que c'est un petit peu une... Je sais pas trop comment traduire ça, mais c'est prépondérant pour moi.
Et merci Antoine pour parler aussi des autres épisodes riches, je trouve tous, et avec toutes les personnes, tous ces échanges. Et j'aimerais quand même parler d'un épisode qui m'a bien touchée. On parle de toucher du doigt de la santé, et je parle de cet épisode qui m'a touchée puisque j'ai un bébé. Donc c'était l'épisode numéro 3 avec Clémentine Courrèges, orthophoniste et spécialiste du bébé. J'ai appris plein de choses.
C'est vrai.
C'était incroyable. Je me disais, mais ah bon ? Ah si, d'accord. Et une des questions qui m'a le plus interpellée, c'était ces liens entre la texture des aliments et le développement de la langue, de la linguistique, de cette partie du langage du bébé, comment ça influençait par les biais des aliments. Ça, j'étais complètement scotché à ça.
Ouais, c'est génial. C'est génial d'avoir ce retour-là. Merci, Nini. Je fais une parenthèse avant de répondre et promis, je m'applique à répondre à la question. Toucher du doigt la santé, c'est vrai. L'idée du thème, c'était ça aussi. Tu vois, toucher du doigt, c'est rendre perceptible, c'est objectiver quelque part, c'est s'approprier. Toucher du doigt la santé, c'est la notion de prendre conscience. Les sens, ils nous permettent de prendre conscience. Voilà, c'était important pour moi. Je me suis un peu égaré dans ta question précédente. Je suis parti dans la passion, mais toucher du doigt la santé, c'est aussi aller là-dessus. Je ferme la parenthèse. Clémentine, c'est une très chouette rencontre aussi, hein, comme chaque épisode. Et il y a beaucoup de mamans. Il y a beaucoup de mamans et de papas qui nous font des retours par rapport au fait de dire « Je n'avais pas pris conscience, justement, j'avais pas touché du doigt le fait que ce qui se passait aussitôt dans la vie, ça allait avoir une répercussion sur le langage. Typiquement, une orthophoniste, elle est vue par la majorité des patients comme « tant qu'on ne sait pas parler, ça sert à rien d'aller les voir ». Et en fait, eh ben, on est en train de construire, dès les premiers jours de vie, notre expérience à travers nos sens, hein, la succion, le fait d'aller attraper le sein de maman, le fait d'aller attraper la tétine sur un bibi, le fait d'interagir avec ça, on est en train de construire dans la cavité buccale, au niveau du plancher, de la langue, au niveau de la loge antérieure du cou, de tous les muscles qui se passent, de la sensorialité, hein. La langue, c'est quand même presque la moitié des nerfs crâniens. On est en train de mettre en place les systèmes en lien avec le nez et ça, ça va jouer, ça va conditionner ce qui se passe dans le langage, ce qui se passe bien plus tard. Donc moi, je suis super content que ça ait fait sens pour toi et pour cette phase de vie qui est pleine de potentialités, en fait.
Une autre chose aussi que je me dis, il faut réfléchir autrement de temps en temps, c'est que quand tu donnes à un bébé un aliment qui est nouveau, ils font une espèce de grimace. Et néanmoins, ce n'est pas pour cela que les bébés n'aiment pas, c'est juste qu'il est en train de découvrir.
Ouais, c'est ça. J'ai un doute, mais je crois que de mémoire, elle dit une dizaine de présentations. Et c'est aussi intéressant dans notre façon d'éduquer, parce que parfois on ne sait pas trop quelle est la limite en disant « Non mais est-ce que j'ai son consentement ou pas ? Est-ce que c'est bien de le forcer ou pas ?» Et ça fait du bien de se reposer sur des experts en disant « Bah voilà, non, en fait, anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, La découverte, elle passe aussi par ces phases de c'est surprenant, la texture, le mou, le dur. Hein, ça fait un écho avec Virginie, l'épisode 6, le fait de, un peu plus tard, mâcher, croquer des noisettes, du chocolat, des carottes, etc. Et qu'il faut plusieurs présentations. Ouais, c'est des petits conseils. C'est vraiment l'idée. J'ai conscience que les podcasts ont une certaine richesse et donc densité, dans le sens où il y a beaucoup de choses. Mais que t'es extrait, que t'es réussi à extraire ce type de conseil-là, alors c'est que ça a un sens.
Pour moi, il y a beaucoup de sens, effectivement. Antoine, j'aimerais revenir à l'épisode numéro 2, cette rencontre avec Caroline Rome, experte en sophrologie, mais en sommeil. Donc, le sommeil sera et vigilance. J'étais étonnée, on passe 7 ans, 6 ans de notre vie à dormir, c'est ça ?
Alors, beaucoup plus, en fait, on passe... T'as retenu le bon chiffre pour rêver. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, hein, on passe un tiers de notre vie à dormir. On passe un tiers de notre vie à dormir. C'est juste... Mais colossal. Et ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. C'est un des paramètres majeurs de la santé. Et aujourd'hui, le sommeil, on le retrouve dans énormément de pathologies. C'est-à-dire qu'au-delà de l'apnée du sommeil qui commence à être connue, il y a plein de parasomnies, il y a plein de dysfonctionnements chez les enfants aussi. Hein. Un petit parenthèse au passage, un enfant qui ronfle, qui dort la bouche ouverte, qui fait du bruit, qui bave, qui bouge beaucoup, qui a des cernes le matin, on est en train de se rendre compte que c'est des signes d'appel pour dire « hop, il faut venir l'aider ce petit bout ». Cette petite loute. Et donc Caroline, eh ben, c'est une rencontre humaine avant tout. Je l'ai rencontrée il y a une vingtaine d'années, dans ma formation de sophrologie au départ. On partage tous les deux, tous les trois avec toi, le goût du sport, je sais. C'est une ancienne danseuse de très haut niveau. Et petit à petit, elle s'est spécialisée en sophrologie et elle est à l'Hôtel Dieu à Paris. Donc c'est aussi un chouette clin d'œil pour la sophrologie, parce que dans son cadre de compétences, on ne guérit pas des cancers, je le dis pour les médecins, pour les professionnels de santé qui écoutent. On n'est pas en train de guérir des maladies graves et on est à notre place. Par contre, clairement, de plus en plus d'études montrent que ce type d'accompagnement, c'est bénéfique. Et puis on parle quand même de choses qui sont validées par la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, ou le CNRS, donc Centre National de Recherche Scientifique. Et quand on sait que 40% de la population a des troubles du sommeil, 40%, Nini, tu te rends compte, 40%, c'est dans la rue, presque une personne sur deux, tu te dis « Ah, toi, tu dors mal », c'est quand même dingue. Ben, le fait d'amener de la sérénité, sommeil serein, vigilance, Caroline, elle a amené ça et c'est un des épisodes les plus écoutés. Je crois que ça concerne... différentes phases de vie et les gens nous font des super retours sur ça, donc c'est chouette, ouais.
Et en plus, on apprend plein des choses aussi, hein, et elle est passionnante. Je voudrais, Antoine, faire revenir à l'épisode numéro 6 avec Virginie D'Angelo, donc elle est chirurgien dentiste dédiée à la orthopédie dentofaciale précoce. Et ce que j'ai trouvé aussi chez elle, c'est cette sensibilité aussi au moment d'accueillir ou de travailler avec les enfants. Tu ne travailles de la même façon, j'imagine, qu'avec un adulte. Il y a une certaine sensibilité que tu dois développer.
J'allais dire, c'est une bonne question. Je crois que c'est la deuxième fois que je dis ça. Donc, je change. Oui, c'est OK. mais si, c'est une bonne question. En fait, c'est une question fondamentale et je pense que c'est peut-être pour ce type de raison-là que j'ai eu envie de créer le podcast. Virginie, ça fait un moment qu'on échange ensemble. Il y a une dizaine d'années, quand je me suis installé ici, je recevais les enfants et j'avais peur. Je vais être honnête, j'avais peur. Les premières fois que j'ai reçu des enfants, je me suis dit, bon, alors, c'est un petit adulte, ça va marcher. Mais en fait, c'est tout sauf un petit adulte. C'est dans les livres, hein, mais en vrai, c'est pas ça. Et déjà, il y a un comportement qui n'est pas le même à gérer. Un enfant qui arrive à 1 an, à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans, l'interaction, c'est pas la même. Ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, pour nous soignants, ça va vraiment être très différent. C'est-à-dire que un adulte, il vient, a priori, il est consentant pour venir au cabinet, il paye pour ça, que ça soit pour des soins d'ostéopathie, que ça soit pour n'importe quel type de soins. Même si pour la bouche, c'est un cran encore au-dessus, hein, d'arriver et d'ouvrir la bouche et dire « vas-y, fais des trucs dans ma bouche », c'est quand même un cran au-dessus. Pour rester sur le côté relationnel, entrer en lien avec un enfant, ça demande des compétences, ça demande du temps et ça demande un cadre. Et Virginie, elle a pour moi l'art. Alors elle a beaucoup évolué, hein, parce qu'au départ elle était omnipraticienne, elle a fait plein d'autres choses, mais aujourd'hui, elle a l'art de relier ces trois-là. La compétence relationnelle, elle se met à la hauteur de l'enfant, elle a des outils d'hypnose après pour arriver à proposer un soin dans les meilleures conditions possibles. Elle a le cadre, c'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de stickers, il y a des jeux, stickers s'il devait montrer un S. Il y a tout un environnement sensoriel pour le mettre safe, pour le mettre en sécurité. Et puis après, elle a les compétences techniques, bien sûr, et elle fait partie des personnes qui interviennent très tôt. Tu vois, quand on dit orthopédie dentofaciale ou orthodontie précoce, c'est-à-dire qu'elle bosse à partir des dentures lactéales, quand il y a des dents de lait, 3, 4, 5, 6 ans, elle travaille. Je sais pas si vous imaginez ça, un petit bout qui a 3 ans. Alors c'est des appareils, elle dit que c'est des petits bijoux, hein, parce que c'est plus qu'un appareil simple. Et en fait, elle va venir travailler sur les fondations de ce que sera la denture plus tard d'adulte. Et elle intègre beaucoup de fonctions. Pas que les dents, c'est beau, c'est joli, je les aligne, merci, au revoir. Non, c'est aussi toute la fonction. Et pour pouvoir rentrer dans la bouche d'un enfant, ben, soit on le sangle sur la table et on le force, et ça donne ben, ce qu'on connaît tous dans nos familles respectives, hein, des gens qui ont horreur du dentiste. Et c'est horrible. Soit c'est un art, et rentrer en communication avec un enfant, lui faire ouvrir la bouche, laisser soigner dedans, ça a des conséquences qui sont magnifiques pour la suite. On parle de ventilation, on parle de déglutition, on parle de mastication, enfin tu vois, c'est vraiment important.
On parle aussi des sommeils, hein.
Et bien sûr.
Ça va toucher aussi le sommeil.
Bien sûr.
Et ce que je trouve beau aussi dans cette approche, c'est l'art. C'est un art d'accompagner les sourires. C'est t'accompagne, t'imposes pas. Et en plus, c'est un art.
Ouais, ben écoute, j'ai rien à dire de mieux que ça. C'est vraiment ça. C'est un art. Et je crois que c'est le titre de l'épisode. J'ai un doute, mais je crois que c'est le titre de l'épisode, l'art d'accompagner le sourire de vos enfants. Aurélien Guibert, dans le tout premier épisode, on parlait de l'art, du fait de dire que nos métiers, c'était aussi un art. Et heureusement pour nous, c'est un art qui commence à être reproductible. Il y a de plus en plus de praticiens, là on parle des dentistes, de chirurgiens dentistes, qui sont spécialisés sur l'accueil des enfants, et donc qui vont créer ces conditions pour pouvoir permettre des soins optimaux. Ça va bien plus loin que le soin au sens l'action thérapeutique, c'est aussi la prévention, c'est aussi l'éveil des consciences. Tu vois, j'aime beaucoup ce mot éveil des consciences, ce groupe de mots. En fait, il y a l'intervention, et quand on en est là, on est déjà dans le faire, c'est-à-dire qu'on passe dans la matière et c'est j'agis, je répare une carie, j'utilise des outils thérapeutique pour agrandir le palais, pour venir travailler sur l'extraction d'une dent ou non, etc. Mais il y a aussi de l'être. En fonction de l'être, de ce que je fais, à l'intérieur de moi, de ce que je ressens, je peux ne pas arriver à avoir besoin d'un soin. Et ils agissent aussi là-dessus, sur la prévention. Tu vois, c'était important pour moi de dire un petit mot. C'est un art de recevoir, de traiter, de soigner, mais elle inclut, Virginie, aussi dans ses consultes, avec ses deux assistantes qui sont super, hein, Tiffany et Marjolaine, le fait de dire on sème des petites graines, on est là pour vous, mais peut-être même que si on fait ce qu'il faut avant, il n'y aura pas besoin de traiter. C'est quelque chose qui est très oublié dans la médecine occidentale, trop oublié, et qui est pourtant dans les bases, hein, Hippocrate, il y a très longtemps, l'information, la prévention, c'est quelque chose qui est fondamental, qu'on n'a pas le temps de faire, et c'est dommage. Je trouve ça dingue de se dire on attend que ça aille pas pour agir. Alors qu'en fait, il y a énormément de pathologies sur lesquelles, si on agit avant, la pathologie n'apparaît simplement pas. Donc oui, que ça soit médecine chinoise ou autre, je pense que c'est vraiment intéressant de bouger nos fesses pour arriver à faire évoluer ça.
Un grand merci à toi Antoine. Et vous, auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des Radio Vassivière et écoutez aussi Toucher du doigt la santé, les podcasts d'Antoine Couturière, les podcasts des rencontres entre santé et bien-être. À bientôt.
À bientôt.